Bien, on s'était arrêté la dernière fois là. Pour ceux qui ont les notes, hein, les pages 116, tout en bas, pas pour moi, tout en bas, peut-être pour vous, vous avez commencé la 117 déjà, je ne sais pas. Mais on avait lu juste la série de versets avec ce sous-point, on parle du fait de la discipline que Dieu désire voir dans ses enfants. On parle de, pour contrer cette fainéantise qui est un peu dans chacun de nous, à des degrés différents, souvent dans des domaines différents. Mais on a vu ces différents passages qu'ils en parlent, qu'il faut avoir, que Dieu désire voir chez ses enfants un minimum de discipline, de rigueur, de contrôle. Et on avait juste fait référence de Jacques chapitre 3, versets 2 à 13, où il donne tout ce dizaine de versets qui parlent de cette petite langue que nous avons et de comment le fait qu'elle est tellement difficile à maîtriser, justement, d'en avoir la discipline, que ça n'excuse pas le fait de ne pas mettre l'effort nécessaire pour discipliner ce petit membre dans notre bouche qu'est notre langue. Et il donne des exemples, c'est pas juste le fait de dire des grossièretés ou de prendre le nom de Dieu en vain. C'est d'un moment donné, on dit donner gloire à Dieu, et puis de l'autre côté, on donne gloire à soi-même, on s'élève. À un moment donné, on dit aimer Dieu, et de un autre côté, on dit des méchancetés envers notre frère, des choses qui sont contraires. Et il dit, c'est difficile, je le comprends. C'est un petit membre, la langue est une petite chose, mais il faut, vous êtes sans excuse pour ne pas vouloir avoir la discipline pour maîtriser et contrôler ce petit membre. Et on comprend bien que Dieu s'attend à ce que nous vivons une vie disciplinée et non une vie de désordre. Que pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de banal, de oh, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Et on ne pourrons pas faire le bien que nous devons si on refuse de pourvoir l'effort pour faire ce bien qu'on doit faire. De comprendre que ça ne va pas se faire tout seul. Ça va, le bien qu'on doit faire ne va pas se réaliser, se matérialiser par hasard, sans effort de notre part, juste par chance. Et au contraire, laissé à nous-mêmes, on doit accepter le fait que nous aurons toujours un penchant à faire ce qui déplaît à Dieu. Même après notre salut, ce penchant va toujours être. Quand on est laissé à nous-mêmes, c'est un penchant qui est naturel, qui revient. Parce qu'on va vouloir faire ce que nous aimons, beaucoup plus facilement qu'on ne le réalise. On peut aimer Dieu, on est sauvé, on est les enfants de Dieu, et on aime réellement Dieu, mais laissé à nous-mêmes, si on ne fait pas attention, si on n'a pas cette discipline, si on le prend à la légère, cette volonté de vouloir faire ce que nous aimons va s'initier très facilement, très rapidement dans notre vie, à satisfaire nos désirs, ou au moins parfois à trouver des chemins un peu plus faciles que ce que Dieu nous a tracé, qui demandent moins de travail, moins d'efforts. Pour reprendre un peu l'exemple de l'apôtre Paul, hein, qui fait allusion à un athlète qu'on avait vu la semaine dernière, on sait qu'il n'y a pas un seul athlète, même dans ce monde aujourd'hui, qui puisse espérer devenir un bon athlète de haut niveau en faisant le minimum de travail. Si un aspect est plus difficile pour lui qu'un autre, il ne va pas négliger cet aspect-là. Au contraire, il va le travailler d'autant plus. Le premier exemple, j'en ai choisi un au hasard, on aurait pu prendre pratiquement n'importe quel sport, mais un gardien de but. On va dire qu'il sait que les balles qui vont dans la lucarne de son côté gauche sont les plus difficiles pour lui. Ben, il va pas se dire, c'est pas grave, je peux arrêter pratiquement tous les autres tirs, je vais me concentrer sur ce que je fais déjà de bien. Et il est vrai qu'il ne doit pas ignorer ce qu'il fait déjà de bien, de ne pas prendre ces choses-là pour acquis, parce qu'il va devoir les travailler pour continuer à les faire bien. Mais s'il veut être un meilleur gardien, il travaillera également son point faible. Surtout si, encore une fois, on parle d'un athlète qui désire être un athlète de haut niveau, qui ne se contente pas d'être bon, ben, un athlète de loisirs. Deuxième exemple, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer au ping-pong, dans un club. J'ai joué dans ma cave, comme beaucoup pendant longtemps, mais la première fois que j'ai joué dans un club, bah, j'avais beaucoup de mal avec ce qu'on appelle les balles coupées. Et on n'avait jamais appris, j'ai jamais été dans un club, j'ai jamais. Il n'y avait pas YouTube à l'époque, il n'y avait pas de vidéos d'instructions qu'on pouvait aller regarder. Je savais même pas les termes de qu'est-ce que c'est qu'une balle coupée, une balle liftée, une balle slicée ou je sais quoi. Il suffisait j'avais un assez bon jeu, j'avais une belle attaque, souvent, mais il suffisait qu'on me pousse la balle deux ou trois fois de suite, c'est moi qui faisais la faute de par moi-même. Et je me rappelle à des personnes qui voulaient m'aider, mais il dit, si tu veux progresser, on va faire des séances de poussettes et de balles coupées pendant une demi-heure. On ne faisait que ça, que ça, que ça, que ça. Revers, coup droit, revers, coup droit. Et après un certain temps, ça allait beaucoup mieux. Mais si je m'entêtais, je dis, c'est pas vraiment marrant. Moi, j'aime faire des jeux, j'aime m'amuser, j'aime attaquer. Attaquer, c'est quand même plus marrant. J'aime envoyer la balle aussi fort que je peux et le voir ne pas réussir à la reprendre. Mais dès que le gars il sait mon point faible, que je ne peux pas couper, ben, j'aurai jamais l'occasion de le faire. Et j'aurai jamais progressé. Et je ne pouvais pas ignorer ce très très gros point faible dans mon jeu. Et même si les séances de poussette, ouais, étaient barbantes, rien d'amusant, elles étaient utiles. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Je voulais bien, moi, m'imposer cette petite discipline parce que je savais que le résultat allait en valoir la peine. Et c'est ce que nous devrions voir avec notre vie chrétienne. Parce que oui, souvent, quand on parle de discipline, d'avoir une vie d'ordre et d'être discipliné, bah, c'est pas plaisant. On n'aime pas trop s'imposer des restrictions et s'imposer des séances de choses qui ne sont à nos yeux pas aussi agréables que d'autres qu'on préférerait faire. Et cette discipline que Dieu voudra voir dans notre vie, parfois, c'est vrai, n'apportera pas autant de joie et de satisfaction que beaucoup d'autres choses qu'on aimerait faire. Mais si nous nous rappelons qu'on le fait non seulement par simple obéissance parce que Dieu dit qu'il faut, mais qu'en plus que le résultat va en valoir la peine, parce que Dieu va utiliser cette discipline qu'il veut voir dans notre vie pour nous aider à être de meilleurs enfants, à être de meilleurs outils, à être de meilleures personnes, à être, si on le résume, à être plus comme Christ et moins comme la personne que j'étais avant de rencontrer Christ. Et alors oui, ça va en valoir la peine. Ah, ça va pas se faire tout seul. Hein, selon les cas de chacun, quelqu'un d'autre aurait pu suivre les mêmes séances de poussette au ping-pong que moi. Il aurait pu progresser beaucoup plus vite que moi. Il aura compris certaines choses et moi, ça m'aurait pris plus de temps. Et dans notre vie chrétienne, c'est pareil. On va s'imposer des disciplines que Dieu nous donne dans sa parole, comme on vient de voir celui avec de notre langue, par exemple. Et certaines personnes, ben, Dieu va les aider à avoir la discipline beaucoup plus rapidement dans ce domaine que d'autres. Mais ce n'est pas parce que l'autre va plus loin, plus vite, qu'il apprend plus vite que nous, qu'on doit être découragé. On continue, ce n'est pas une course entre nous. C'est une discipline qui va en valoir le résultat. Parce que là maintenant, on ne s'impose plus cette discipline parce qu'on n'a pas le choix, parce que Dieu dit, il faut que. Mais comme un bon athlète, ou pour nous, comme un bon enfant de Dieu, on s'impose cette discipline parce qu'on désire voir le résultat qu'elle va produire. L'athlète qui arrête de manger certaines choses et qui s'impose un rythme d'entraînement et de séance de pompe et de musculation, etc., et de course, même quand il fait 36 degrés dehors ou quand il fait moins 12, et qu'il continue à travers toute l'année, et qu'il se prive de plein de choses, c'est parce qu'il sait le résultat. Pour lui, ça en vaut la peine. Je veux pas juste être un athlète, je veux être un athlète de haut niveau. Et je veux pouvoir être meilleur à la fin de l'année que je ne le suis maintenant en début de l'année. Et il s'impose de par lui-même pour le résultat qu'il désire voir. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on voit Dieu nous donner certaines restrictions pour que nous puissions nous aider à vivre une vie ordonnée, une vie qui soit le contraire d'une vie de désordre, il veut qu'on ait cette discipline. Il veut pas qu'on le fasse juste parce qu'il nous dit qu'on le fasse, de le faire. De le faire par amour pour lui, c'est une chose, mais de le faire parce que on désire être plus comme Christ. Et parce qu'on veut ce résultat pour nous-mêmes aussi. On sait que cette discipline n'est pas pour rien et qu'il est impossible que cette discipline fasse de nous un plus mauvais chrétien. Alors pourquoi ne pas se l'imposer? Parce que justement, c'est dur et je suis feignant. Mais tout comme pour l'athlète, l'ennemi majeur à la discipline, c'est la feignantise. Mais il est toujours facile de bien commencer. Mais plus le temps passe, plus il nous est facile d'essayer d'en faire un peu moins, de changer un peu. Ouais. Je dois faire 30 pompes aujourd'hui. 28, 28. Oh, c'est bon, 20, 30. Puis le lendemain, oh, je m'étais arrêté à 28. Hein. Là, 26, c'est bon aussi. Puis, bon, après, on n'en fait même plus 30. Et après, on se demande. Alors qu'on devrait aller à 30 et ensuite plus tard à 35 et puis ensuite plus tard à plus. On ne progresse pas et on se demande mais pourquoi je n'ai pas le résultat que je voulais avoir. Parce que de la même manière que la fainéantise est l'ennemi de la discipline, on pourrait également dire que la discipline est l'ennemi de la fainéantise. L'athlète qui est bien discipliné, il ne va pas être l'athlète fainéant. C'est celui qui va faire l'effort. Si on veut vraiment vaincre la fainéantise dans notre vie, il faut absolument qu'on prenne nos responsabilités avec sérieux et qu'on soit discipliné aussi bien dans notre conduite, dans notre obéissance, et qu'on se rappelle quel est l'objectif final qu'on veut atteindre. Pourquoi est-ce que je m'impose cette discipline? Si la réponse est parce que Dieu veut, ça ne suffira pas. Si on dit parce que Dieu veut et parce que j'aime Dieu, ça aide, mais il en faut encore un peu plus. Parce que je sais que ça plaît à Dieu, j'aime Dieu et je veux être plus comme Christ, c'est encore une bien grande différence. La motivation n'est plus la même. Je ne m'impose pas cette discipline pour mon orgueil ou ma fierté personnelle, pour être bien vu des autres, mais oui, par amour pour Dieu et pour ressembler plus possible comme Christ. D'avoir les mêmes sentiments de Christ, hein, la Bible nous dit. Est-ce que ça n'inclut pas le fait de ne pas être feignant, d'avoir cette discipline? Est-ce qu'on ne peut pas voir dans la façon de penser de Christ quand il a vécu sur cette terre, cette discipline qu'il avait dans sa vie? Je pense aux exemples que nous avons également dans les Écritures des personnes qui sont plus comme vous et moi, hein, des personnes qui n'avaient pas une responsabilité ou des circonstances faciles, mais qui ont fait de leur mieux quand même. Donc l'inverse d'être feignant ou qui ne se sont pas satisfaits de faire le strict minimum. Je pense à Moïse. Quelle tâche il a eue, pas seulement pour libérer le peuple d'Égypte. Ça, c'était déjà une grande tâche, mais en plus, la responsabilité après de guider ce peuple jusqu'à la terre promise. Ça, ce n'était pas une mince affaire non plus. Et ensuite, il a dû l'en faire encore pendant 40 ans parce que, bref, vous connaissez l'histoire. Mais jamais de ce qu'on peut voir dans sa responsabilité, est-ce qu'on peut dire que Moïse était un fainéant. Il a fait le strict minimum. Je pense à Joseph. Vous savez que j'aime son histoire. Donc je reviens, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Mais malgré le fait qu'il y ait eu injustice sur injustice dans sa vie, à chaque fois qu'il y a eu une injustice qui lui a été commise, il a quand même donné le meilleur de lui-même après. À chaque fois, il s'est fait remarquer par Potiphar. Il l'a mis à la tête de sa maison. Il s'est fait remarquer par le gardien de prison. Et vous le savez, vous le connaissez, il a été mis à la tête d'Égypte avec seulement Pharaon au-dessus de lui-même. Toutes ces personnes lui ont donné des responsabilités. Joseph n'a jamais utilisé les circonstances pour être une excuse pour faire le moins possible. Et c'est justement parce qu'il a donné à chaque fois le meilleur de lui-même, malgré les circonstances, malgré les injustices, qu'il a été remarqué d'une manière positive. Et qu'il a eu ce, donc, et toujours aujourd'hui, ce témoignage que nous aimons lire et voir. Nous laissons, nous, souvent, les circonstances mettre le doute dans notre esprit, de dire, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre autant d'efforts dans cette responsabilité-là aujourd'hui? Ça dépend, est-ce que tu le fais pour toi ou non? Nous oublions souvent l'aspect de Dieu qui permet ou amène les circonstances spécifiques dans notre vie, parce qu'il sait qu'on a besoin de travailler cette attitude dans notre vie, cette faiblesse que nous avons pour nous aider à être des meilleurs soldats et des meilleurs chrétiens. Proverbe 20, chapitre 20, verset 4, il dit, à cause du froid, donc circonstance, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Aujourd'hui, on dirait, il fait froid, j'y vais pas. Ah, il pleut, j'y vais pas. Ah, il fait beau, j'y vais pas. Bon. Proverbe 19, 15 nous dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Bon, le manque d'envie. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et même et l'âme nonchalante éprouve la faim. Et aussi, il y a toujours ce verset qu'on connaît bien en Proverbe 19, 24. Hein, le paresseux plonge sa main dans le plat, il ne la ramène pas à sa bouche. Il est tellement paresseux qu'il... C'est un peu comme il ramène la tête au plat au lieu de... C'est trop fatigant de lever la main. Mais bon, Dieu sait que les circonstances que nous faisons et dont on doit faire face, il sait qu'elles ne sont pas faciles. Et Dieu sait que les circonstances dans lesquelles on doit faire face ne sont pas plaisantes non plus. Mais on oublie que Dieu voit également une troisième chose. Il voit le bien que ça pourrait produire dans notre vie si nous acceptons notre responsabilité dans cette circonstance que lui a permis pour nous aider à grandir dans notre vie chrétienne. Vous avez prié pour de la patience? Bah, alors ne soyez pas étonnés que Dieu vous amène des circonstances pour faire grandir votre patience. Avoir l'occasion de mettre votre patience en pratique. Vous avez prié pour avoir du courage. Alors ne soyez pas étonnés que Dieu vous permette d'être dans une situation, une circonstance qui vous permettra de faire preuve de courage. Donc automatiquement dans la compréhension qui vous mettra dans une situation qui pourrait vous apporter de la crainte, de la peur. Mais que malgré cette peur, vous avez le courage d'obéir et de faire ce qu'il vous savez plaise à Dieu. Et on pourrait continuer cette liste avec cette même vérité toute la soirée. On pourrait parler de la foi, de m'aider à grandir dans la foi. On pourrait parler de l'hospitalité, du pardon, de la compassion, de l'amour. Et à chaque fois qu'on prie pour ces choses, ce sont des bonnes choses. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est étonné que Dieu nous met dans des situations, dans une circonstance, pour nous aider à grandir dans ces choses pour lesquelles on a prié. Mais pour qu'on puisse apprendre de ces choses, il va falloir être discipliné. Il va falloir choisir de ne pas être feignant et de traverser cette épreuve, au lieu d'essayer de trouver la facilité et de prier pour que Dieu enlève l'épreuve. Qu'est-ce qu'on veut? On a prié que le Seigneur nous aide à grandir dans un domaine, il envoie les circonstances pour qu'on le fasse, et puis on lui demande dans la prière de l'enlever. Faudrait savoir. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Au lieu de prier, Seigneur, enlève ce problème, enlève cette circonstance. Seigneur, j'ai prié pour que je grandisse dans ma foi, j'ai prié que je grandisse dans mon amour, j'ai prié que je grandisse dans ma patience, j'ai prié que je grandisse en sagesse. Seigneur, maintenant, aide-moi à traverser cette épreuve pour que je puisse apprendre la leçon que tu voulais que j'apprenne à travers cela. Un athlète sait qu'il ne peut pas progresser en laissant quelqu'un d'autre faire ses exercices à sa place. Je dois faire 50 pompes. Bon, allez, j'en fais 25. Joshua, tu fais les autres 25. Ça m'aide pas moi. Je serai moins fatigué, certes, mais ça ne fera pas de moi un meilleur athlète. Et c'est pourquoi Dieu ne nous demande jamais de décharger nos responsabilités sur quelqu'un d'autre. On doit s'entraider à porter les fardeaux des uns des autres, mais jamais à nous décharger complètement de nos responsabilités sur quelqu'un d'autre. Il ne demande pas à ce qu'on enlève les circonstances que lui, il a permis chez quelqu'un d'autre, mais qu'on aide cette personne à traverser cette épreuve, qu'on aide cette personne à traverser cette difficulté. De la même manière, est-ce qu'il demande à ce que cette personne nous aide, nous, à traverser la nôtre, mais pas à la prendre à notre place? Dans le monde du travail, nous entendons de plus en plus des personnes dire, oh, on va vers quelqu'un dans un magasin, il dit, oh, ben, non, ben, je ne peux pas vous aider, ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas mon rayon, ce n'est pas mon domaine, ou peu importe, il faut aller voir tel ou un tel. Alors que cette personne pourrait vous aider, elle a la capacité, elle aurait peut-être même l'autorité de le faire, mais ce n'est pas mon titre, ce n'est pas moi. Va voir quelqu'un d'autre. J'en ai parce qu'ils, plus qu'autre chose, ils n'en ont pas envie. C'est la facilité pour eux. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont pareils. Ils se disent que ce n'est pas grave si eux ne font pas quelque chose, il y a un autre chrétien qui le fera. Un autre exemple, je me rappelle avoir vu, peut-être que vous avez lu également, l'exemple d'un manager d'un restaurant. Je crois que c'était un fast-food, mais je ne sais plus lequel. Mais un jeune homme qui venait d'être embauché, il voit ce même manager en train de passer à la serpillière. Et il demande à un collègue, il le fait souvent ça. Pourquoi est-ce que le patron passe la serpillière? Il dit avec facilité, il dit à un autre employé de le faire. Il dit, oh non, c'est commun. Et il le fait souvent parce que il veut montrer par son exemple qu'on doit toujours être prêt à remplir n'importe quelle fonction à n'importe quel moment. Une chose que le patron ne veut pas entendre, c'est ce n'est pas mon boulot. De cette façon, il peut demander au caissier d'aller servir une table, il peut à celui qui prépare la nourriture d'aller nettoyer une table, ou à n'importe qui de prendre un balai ou un serpillière ou d'aller de faire quoi que ce soit. Il est difficile d'avoir une attitude de fainéantise dans ces conditions-là, quand on est toujours prêt à faire n'importe quel travail. Alors que si on a l'habitude de dire, c'est pas mon travail, va voir l'autre, ben oui, là, c'est pas pareil, c'est pas la même mentalité. Mais n'est-ce pas ce que Dieu demande de nous aussi? Avons-nous le droit de dire, ça ne me concerne pas, c'est pas mon travail, ce n'est pas ma responsabilité? Mais si Dieu nous met dans une circonstance, une situation spécifique, c'est pour une raison spécifique, et c'est pas pour celle de la pousser sur quelqu'un d'autre. Ma responsabilité, on le sait, est toujours de plaire à Dieu, de faire ce qui lui est agréable, de l'obéir, de lui montrer que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Si on est feignant et qu'on aime choisir ce que nous obéissons, qu'on aime choisir quand nous obéissons, alors ayons l'honnêteté d'enlever tous les toutes dans les j'aime l'Éternel de tout mon cœur, de toute ma force et de tout mon être. Et soyons honnêtes et disons, j'aime l'Éternel quand ça me convient. Et si ce qu'il me demande n'est pas trop difficile, et si j'en ai envie, mais soyons honnêtes et ne disons plus, j'aime vraiment de tout mon cœur, de toute ma force et de tout mon être, si je dois également choisir quand et quoi j'obéis. La discipline, elle n'est pas facile, mais elle est utile, parce que le résultat en vaut la peine. Et on va s'arrêter là pour ce soir. On reprendra ce sous-point, Dieu voulant, la prochaine fois, avec le lien entre la fainéantise et nos émotions, malheureusement. Mais voilà.